15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Tout l'été Europe 1 vous aide à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Pendant une heure, nous allons donc vous informer et partager des conseils pour votre bien-être. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, est avec nous en studio. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez de sexologie un peu avant 16h et vous nous donnerez aussi quelques conseils pratiques pour l'été.
Eh bah oui, côté sexo, on va se demander en fin d'émission s'il faut séparer sexe et sentiments. Et dans les petits bobos de l'été, on va découvrir des petites coquetteries qui peuvent gâcher les vacances.
Et notre dossier du jour est aujourd'hui consacré aux bienfaits de la musique pour notre cerveau et notre santé. Que ce soit du rock, du jazz ou de la musique classique, vous allez découvrir à quel point la musique peut influencer notre humeur et nous aider à apprendre, à créer, à mémoriser et même à soigner. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Bigan, professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour Sans Rendez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et l'on démarre comme tous les jours par quelques conseils de santé pratique. Aujourd'hui, Damien Mascret, vous allez nous inviter à nous méfier de quelques petits désagréments liés à la coquetterie l'été.
Bah exactement, la plus classique, c'est l'une des premières choses que sans doute votre maman vous a dit quand vous étiez jeune, on ne met pas de parfum au soleil.
Ah oui, parce que ça laisse des taches, c'est ça?
Exactement. Alors en théorie, il y a plus d'une centaine de substances chimiques qui peuvent provoquer comme ça une réaction de la peau.
Une centaine.
Ah oui. Et évidemment, dans le parfum, il y en a beaucoup, la composition est complexe. Donc là, les symptômes, ça ressemble au coup de soleil. Quelques heures après l'exposition au soleil, ça rougit, ça fait mal. Sauf que, évidemment, ça n'arrive qu'à ceux qui ont mis du parfum ou qui ont pris certains médicaments. Il y a des antibiotiques notamment. Je les laisse un petit peu de côté pour l'instant. Alors, ce qui peut se passer parfois, c'est qu'une hyperpigmentation brune va apparaître. Et l'ennui, c'est que ces taches peuvent être définitives et rester sur la peau. Attention aussi avec les lotions après rasage, messieurs. Pensez-y, parce que ça peut déclencher aussi une réaction photoallergique au soleil. Là, c'est plutôt le lendemain ou sur le lendemain de l'exposition. Ça ressemble à l'urticaire. Là, c'est rouge.
D'accord.
Il y a des petits boutons, ça démange. Et plus vous avez la peau claire, plus le risque augmente. Mais bien sûr, ça peut arriver à tout le monde, même sur des pommettes.
Alors, et on a aussi une question de Cédric en cette période de coronavirus.
Je me disais, on utilise pas mal de gel hydroalcoolique là ces derniers temps. Et est-ce qu'avec l'été, le soleil, est-ce que ça peut pas être dangereux pour les mains, pour la peau?
Alors, oui, c'est vrai que les dermatologistes...
Avec l'alcool notamment.
Bah oui, l'alcool qui est contenu là-dedans. Les dermatologistes espagnols ont attiré un petit peu l'attention. Ça a été repris d'ailleurs par les dermatologues français. Alors, soyons clairs. D'abord, à la plage, évidemment, ça ne sert à rien d'utiliser une solution hydroalcoolique. D'abord, parce que vous ne risquez pas de toucher du virus dans le sable. Il n'y en a pas. Bien sûr, si vous allez aux toilettes publiques, il faut vous savonner les mains avec de l'eau savonneuse. C'est idéal pour se débarrasser du virus. C'est encore mieux d'ailleurs que la solution hydroalcoolique. Et puis, si vous êtes en terrasse au soleil, pas de panique non plus, parce que si vous utilisez du gel, l'alcool se dissipe très vite, en 10-15 secondes, selon d'ailleurs l'inventeur lui-même de la formule du gel, donc pas de risque. En fait, le problème, c'est pas vraiment l'alcool, la solution hydroalcoolique, c'est les parfums. Donc évitez, prenez des gels neutres, évitez des solutions hydroalcooliques parfumées.
Donc on a compris, au soleil, pas de parfum, pas d'aftershave, pas de gel hydroalcoolique, en tout cas pas des parfumés. Il y a d'autres pièges à éviter?
Oui, il y a un piège assez classique, c'est les tatouages temporaires au henné noir. Vous savez qu'en France, une personne sur 10 est tatouée, même une sur 5 avant 35 ans. Mais évidemment, plus les tatouages se découvrent et plus ça peut donner des idées aux autres et on peut se laisser tenter. Une petite histoire publiée dans une revue scientifique, celle d'un Italien de 8 ans qui est en voyage en Italie avec ses parents, qui a fait faire un superbe dragon dans le dos par un artiste local. C'était effectivement avec du henné noir, c'était prévu pour être temporaire. Malheureusement, juste avant de revenir chez lui, il remet un petit peu de noir et là, paf, c'est la réaction allergique. C'est rouge, ça gonfle, ça suinte, ça démange énormément. Et voilà, et là, il a la réaction allergique. Ça y est, il est sensibilisé.
Donc ça, c'est un problème avec le henné noir. Mais d'ailleurs, le henné, normalement, c'est pas noir.
Non, en principe, c'est une poudre de couleur rouge, jaune, orangée, c'est pas noir, mais on ajoute des substances, notamment la PDD, le paraphényléndiamine. Et là, c'est le problème, c'est que c'est très allergisant. Et le problème surtout, c'est que je pense à cet enfant ou aux autres qui vont se sensibiliser, c'est qu'ensuite, on retrouve la PDD dans de nombreux produits courants, l'encre des imprimants, les cuirs, les textiles. Ça veut dire qu'il y a plein de métiers qui seront définitivement interdits à cet enfant et à d'autres qui ont été sensibilisés et qui ont eu une allergie.
D'accord, donc on évite les tatouages temporaires au henné noir notamment. Un dernier piège à éviter ?
Oui, dernier petit piège, hein, pensez à vos... Il y a des jolies chaussures d'été, mais le problème c'est que très souvent, ça ne maintient pas l'arrière, ça fatigue les tendons, le caoutchouc entre les orteils des tongs par exemple, là, les lanières, tout ça peut abîmer la peau. Alors là, à la moindre plaie, il faut bien nettoyer au savon de Marseille, sécher soigneusement, même mettre un pansement éventuellement, ce que rappelle le docteur Charlaté, qui est un spécialiste de médecine physique rééducation à Berck. C'est aussi prudent de montrer la plaie à un professionnel. N'oubliez pas, évidemment, ensuite de changer de chaussure. Et puis, apprenez aux enfants à bien sécher leurs pieds. Pensez aussi, si vous êtes diabétique, à mettre plutôt des chaussures couvrantes. Enfin, jamais de vélo sans chaussures fermées. Là
ah
aussi.
Oui, pas de vélo en tongs.
Eh bien oui, on peut s'arracher la si peau possible. Du pied, ça gâche ensuite. Fini le sable, fini les baignades dans la mer. Et puis, n'oubliez pas aussi de mettre des chaussettes, ou mieux, des soquettes hein, dans les chaussures, parce que sinon, la macération due à la chaleur et à la transpiration, ça peut abîmer les pieds.
Merci docteur Damien Mascret pour tous ces conseils.
Europe 1.
À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré aux bienfaits de la musique. La musique nous accompagne tout au long de notre existence, elle nous procure des émotions, du plaisir et vous allez l'entendre avec notre invité, elle agit aussi sur notre santé et la plasticité de notre cerveau. À tout de suite.
Europe 1. Sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et par téléphone, notre invité du jour avec qui nous allons parler des pouvoirs étonnants de la musique sur notre cerveau et notre santé. Bonjour Emmanuel Bigan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne et rattaché au CNRS. Ce sujet de la musique vous passionne et après le livre que vous avez déjà publié chez Belin qui s'intitule « Les bienfaits de la musique sur le cerveau », votre nouvel ouvrage est prévu pour septembre. Il aura pour titre « La symphonie neuronale ». Alors les Français écoutent en moyenne 1h10 de musique par jour. Un Français sur deux estime que c'est indispensable dans sa vie quotidienne. Au-delà de vos travaux de recherche, Emmanuel Bigan, je crois que vous en écoutez aussi de la musique. Vous en jouez même.
Oui, oui, bien sûr, j'en écoute comme tout le monde et j'ai la chance d'en jouer comme beaucoup d'entre nous.
Comme
et
contrebassiste.
Je pense que ça fait partie des régulations du fonctionnement psychologique et de la santé que de faire ces activités. Et je pense qu'on comprend aujourd'hui beaucoup mieux pour quelles raisons scientifiques notre cerveau est si sensible à la musique.
Alors justement, comment s'explique cet effet de la musique sur nos émotions d'abord ?
Alors la musique, on pense que c'est des sons, mais ce sont des sons qui ont des caractéristiques tout à fait particulières. Peut-être la première caractéristique, c'est que ces sons sont rythmiques. Et notre cerveau, comme par hasard, est aussi un organe qui est très rythmique. Nous déchargeons des influx nerveux à un rythme très élevé et on sait que la synchronisation des différentes zones cérébrales dans la décharge de ces influx nerveux est reliée à des tas d'états psychologiques extrêmement importants. Et donc, vous comprenez bien qu'avec un stimulus comme la musique qui a une structure rythmique très précise, on va pouvoir modifier les états de notre cerveau et donc changer des états psychologiques qui sont liés à ces états du cerveau.
Damien Mascret.
Oui, bonjour. On dit que le langage, finalement, ou la musique est une forme de langage. Quel lien il peut y avoir entre le langage et la musique ? Que notre cerveau fait la différence comment ?
Alors ça, c'est une grande question. Une question fondamentale, c'est de savoir quels sont les liens entre musique et langage. En apparence, on a l'impression que ce sont deux activités complètement différentes. Dans la finalité, oui, dans leurs apparences aussi, mais sur le plan des ressources que la musique et le langage mettent en œuvre dans notre cerveau, c'est beaucoup moins évident et on pense qu'il y a beaucoup de recouvrement, beaucoup de zones du cerveau qui servent à la fois aux deux, avec des petites différences. Donc, par exemple, on sait que les aires du langage, comme l'aire de Broca, qui est très importante pour le traitement de la syntaxe des phrases, eh bien, est également activée lorsque l'on fait entendre de la musique. Donc si on fait, par exemple, c'est une étude qu'on avait faite avec Barbara Tillman, entendre de la musique avec des erreurs de syntaxe musicale, eh bien, on voit que l'aire de Broca devient active exactement comme lorsque l'on fait entendre des phrases avec des erreurs de syntaxe.
C'est incroyable. Et est-ce que tous les styles musicaux ont un impact identique sur le cerveau ?
Alors ça, ce qui est magnifique avec la musique, c'est que chaque style de musique nous donne un éclairage particulier sur le fonctionnement de notre cerveau. C'est-à-dire que, on peut dire que les styles de musique sont des fenêtres qui illuminent des zones différentes de nos habiletés mentales et psychologiques. Mm-hmm. Et quand vous pensez à tous les styles de musique qui existent sur Terre en géographie, dans l'espace et dans le temps, si je peux dire, dans l'histoire, vous vous rendez compte qu'en regardant le patrimoine musical, on a des entrées sur le cerveau qui sont extrêmement grandes. Et dans une perspective de santé, on y reviendra tout à l'heure, j'imagine, c'est évidemment un atout considérable d'avoir tous ces styles de musique à portée de main.
Alors, si on veut se motiver ou stimuler son cerveau, il faut écouter quoi ? Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on écoute pour se détendre ou se concentrer ?
Alors là, la question est intéressante et la réponse sera plus longue. Il n'y a pas des recettes de cuisine et c'est vrai qu'on aimerait parfois que le monde soit simple et qu'on puisse dire si on écoute des musiques qui ont tel rythme, ça va nous calmer. Si on écoute des musiques qui ont tel rythme, ça va nous exciter, nous réveiller en quelque sorte. Alors effectivement, il y a des grandes tendances qui sont assez simples. Les musiques en mode mineur sont plutôt perçues comme des musiques un peu tristes, un petit peu mélancoliques, alors que les mêmes musiques en mode majeur sont perçues de façon plus gaie. Évidemment, si on joue des musiques un peu plus rapides, ça va avoir un effet différent. Mais par-delà des grands effets comme cela qu'on peut caractériser scientifiquement, la chose est un tout petit peu plus complexe. Donc, il faut tenir compte du fait que la musique est un stimulus qui a beaucoup de dimensions et qu'évidemment, il faut tenir compte de l'ensemble de ces dimensions, du timbre, du rythme, de la mélodie, de l'harmonie, pour pouvoir avoir les effets psychologiques que l'on cherche.
Damien Mascret.
Oui, alors vous dites dans votre livre, vous soulignez le fait que effectivement la musique est donc universelle et en même temps effectivement vous venez à l'instant de parler de musique lente, musique rapide qui sont perçues comme plutôt gaies ou plutôt tristes et pourtant dans le livre vous soulignez bien que c'est observé au sein d'une même culture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors, bon, il y a deux choses. D'abord, les études scientifiques qui sont menées sont conduites en Occident par des Occidentaux. Et donc essentiellement sur une culture musicale occidentale pour une raison pratique, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler dans notre culture, de faire de la recherche dans notre culture que de faire de la recherche dans des cultures éloignées pour des raisons évidentes, aussi pour des raisons purement culturelles. C'est pas habituel pour les gens de certaines cultures qu'on vienne faire des études scientifiques sur la façon dont leur cerveau perçoit la musique, vous voyez. Donc on a une connaissance scientifique qui est bien établie sur la musique occidentale et sur la façon dont les Occidentaux perçoivent cette musique. Ceci étant, on travaille aussi en collaboration avec nos amis ethnomusicologues et on a certains scientifiques qui font des études interculturelles. Donc on peut se permettre de dire qu'il y a des effets qui dépassent les cultures, qui sont assez universaux. Par exemple, l'effet du rythme dont je parlais, c'est un effet universel, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans toutes les cultures du monde. Lorsqu'on augmente la musique, on change l'émotion toujours vers une dimension plus positive globalement. Donc on a des tendances générales qui peuvent dépasser le cadre d'une culture donnée.
Alors, la musique est aussi capable de raviver des souvenirs très profonds. Ça, on le constate chez des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Elles gardent très longtemps en mémoire des paroles de chansons apprises dans l'enfance, voire même la pratique d'un instrument. Comment est-ce que la musique agit sur la zone de la mémoire ?
Alors là, c'est effectivement une caractéristique tout à fait particulière. La musique entretient des relations privilégiées avec la mémoire. Dans certaines cultures, d'ailleurs, la musique marque la vie du groupe social. On a des musiques qui sont associées de façon très précise à tel événement, dans tel contexte, pour telle raison, chantées par tel musicien, etc. D'une certaine façon, chez nous aussi, d'ailleurs, quand vous écoutez des radios telles que vos collègues Nostalgie, qui nous font réentendre des musiques de toutes nos histoires, de toutes nos périodes, ça réactive des tas d'informations. Donc la musique a le pouvoir de mémoriser, un pouvoir de mémoire. Et dans certaines cultures, par exemple chez les Tziganes, une grosse partie de la démarche musicale consiste à réactiver ces mémoires par l'intermédiaire de la musique. Le musicien tzigane fouille dans votre mémoire et essaye de retrouver les morceaux qui sont associés à des moments très émouvants et qui vont vous faire craquer émotionnellement. Et c'est quand vous avez craqué émotionnellement que vous donnez un billet au musicien tzigane qui a réussi à trouver la pièce musicale émouvante.
Damien Mascret.
Oui, vous racontez aussi dans votre livre que quand vous allez jouer dans la musique, parce que je crois que vous y allez, dans des secteurs où il y a des patients qui ont des maladies d'Alzheimer, par exemple, même si l'arrivée de l'orchestre ne provoque pas de réaction particulière, et quand vous commencez à jouer, mais au moment où effectivement la musique commence à prendre le dessus, on voit, en tout cas vous le dites, on voit se réactiver des choses dans la mémoire des patients. Comment on explique cette conservation de la mémoire musicale ?
Oui, alors une réponse en deux temps. C'est tout à fait fascinant cet effet de la musique chez nos aînés qui ont cette maladie difficile qui est la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu du mal à croire les effets qui étaient décrits par mes collègues d'autres cultures. Le neurologue Oliver Sacks a décrit des phénomènes de revitalisation par la musique où les patients Alzheimer retrouvaient leur identité. Il y a un documentaire qui s'appelle Alive Inside, Vivant à l'intérieur, qui est vraiment très, très spectaculaire. Donc on est parti avec des musiciens du Conservatoire de Dijon pour jouer jouer dans ces pavillons Alzheimer, et c'est vrai que ce que j'y ai vu m'a complètement stupéfait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme effet, par exemple, au début des séances, au bout de 20 minutes, les patients étaient fatigués, mais après quelques semaines, où on venait une fois par semaine, au bout d'une heure et demie, ils ne nous laissaient plus partir, et les patients Alzheimer avaient retrouvé une vitalité et vraiment une joie de vivre. Et ce que décrit le neurologue Oliver Sacks, il a une expression qui est vraiment très jolie, il dit « la musique redonne une identité aux patients ». Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, essentiel. Le côté terrible de la maladie d'Alzheimer, c'est d'enlever la mémoire, mais d'enlever la mémoire identitaire, c'est-à-dire la mémoire de ce que nous sommes en tant que personne. Et quand on ne sait plus qui nous sommes, ben on a perdu son identité. Pour le personnel autour, la famille, etc., c'est très difficile. Le fait que la musique puisse redonner une identité, c'est-à-dire redonner une mémoire autobiographique chez ces personnes, a un impact considérable sur les patients, mais aussi sur les gens qui s'occupent de ces patients. Parce que tout d'un coup, ils cessent de voir des patients, mais ils voient à nouveau des êtres humains qui ont une histoire, qui ont des émotions. Et nous, on a vu des choses tout à fait stupéfiantes, des personnes qui étaient un peu gravataires, qui ne bougeaient pas. Puis, pour un hasard ou un autre, on avait joué la valse sur laquelle ils avaient dansé quand ils avaient 20 ans avec leur mari ou leur femme, et puis ils se remettaient à danser, et ils n'avaient jamais fait ça depuis des années et des années. Donc on a des phénomènes tout à fait stupéfiants, on pourrait presque parler de miracles, si vous voulez, dans un autre contexte, mais c'est presque à ce niveau-là par moment. Alors pour quelle raison ? On sait qu'il y a des réseaux de la mémoire musicale qui sont enfouis dans le cortex frontal et qui sont tardivement atteints par la maladie d'Alzheimer. Donc on pense que la résistance de la mémoire musicale à cette maladie viendrait en partie de cette configuration anatomique de la mémoire musicale qui permettrait de résister plus longtemps à cela. Et évidemment, une fois que ces réseaux de mémoire sont relancés, eh bien évidemment, ils vont irradier en quelque sorte vers les autres réseaux qui ne sont pas encore complètement atteints par la maladie, et on va retrouver des compétences cognitives.
On reste ensemble, Emmanuel Bigand, et dans un instant, on continue de parler des bienfaits de la musique sur notre cerveau et de son utilisation pour soigner et soulager. Europe 1. Lutte contre l'hypertension, le stress, la dépression, la douleur. La musique n'est pas qu'un plaisir, elle est aussi utilisée en médecine. À quoi sert la musicothérapie ? On en parle dans un instant.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Anne Le Gall.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé et Bien-être sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et nous parlons aujourd'hui des pouvoirs incroyables de la musique sur notre cerveau. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Emmanuel Bigand, professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne et rattaché au CNRS. Et en studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Emmanuel Bigand, dans votre livre sur les bienfaits de la musique, vous nous rappelez cette scène de la vie courante. On rentre chez nous après une journée de travail, on se sent vidé sans énergie, la tête avec pleine de stress sur la dernière réunion de la journée. Et puis on écoute de la musique et là on se détend, on ressent du bien-être. Comment la musique agit comme ça sur le stress et les tensions ?
Alors la musique a des moyens très particuliers pour rentrer dans notre cerveau. Elle y rentre par les voies auditives, bien évidemment. Et ces voies auditives, elles sont liées au système attentionnel. C'est-à-dire que notre attention est avant tout auditive. Donc, lorsqu'on écoute de la musique, le son va avoir un pouvoir de régulation sur notre attention et sur notre cerveau qui est très grand. Et alors, évidemment, selon les paramètres que l'on manipule dans la musique, le type de rythme, son intensité, si le type de couleur sonore, du haut timbre, si on écoute la musique avec des petits ensembles, au contraire des grands ensembles, etc., des grands ensembles orchestraux qui ont une patte sonore particulière, on peut changer les états de notre cerveau, des différentes régions cérébrales, on peut changer leur activité et on peut moduler l'humeur et on peut moduler nos états psychologiques. Donc c'est un moyen que l'on connaît tous, hein, d'auto-médicamentation, si je peux dire, d'auto-régulation de ses émotions. Et alors ça vient du fait qu'il y a une sorte d'adéquation entre l'énergie que procure le stimulus sonore et l'énergie intérieure de notre cerveau, le fonctionnement, sa rythmicité, etc. Donc on a un vrai moyen de moduler ces états, et la plupart du temps d'ailleurs, lorsqu'on est crevé, ben on écoute un certain type de musique, parce que de fait on a constaté que c'était ce type de musique qui
plutôt
permettait
de la musique tonique d'ailleurs.
Alors ça peut être des musiques toniques si on va faire un événement qui est très engageant, qui a beaucoup d'importance, si on va faire une compétition sportive ou si on va faire une rencontre amoureuse qu'il ne faut pas rater, on se donne de l'énergie, on se prépare mentalement, on se prépare psychologiquement à l'événement et la musique nous aide beaucoup. Si par hasard on est contrarié par quelque chose, on a intérêt à trouver des moyens de se remettre en scène, si je peux dire. On peut utiliser des moyens invasifs, des produits X ou Y, licites ou non licites d'ailleurs, mais la musique c'est tout à fait légal et ça permet d'avoir des effets tout à fait comparables également sur le plan neurophysiologique. On a pu montrer cela.
On sait aussi que la musique peut avoir un effet antidouleur, ça a été testé, différentes études sur des patients souffrant d'arthrose notamment ou recevant des soins douloureux ont montré une diminution du ressenti de la douleur de 10 à 30%. C'est un effet psychologique ou physiologique ? Ou les deux ?
C'est un effet qui est un petit peu des deux niveaux, mais qui est physiologique dans le sens où si vous écoutez une musique plaisante, les réseaux du plaisir et les réseaux de la douleur sont assez proches. Donc dès le moment où ces réseaux sont activés par un stimulus plaisant, il y a un petit peu moins de sensibilité à la sensation de douleur. Donc vous voyez, c'est un petit peu physiologique. On a fait des études en laboratoire dans des situations un tout petit peu artificielles. On demande à des étudiants de plonger l'index dans de l'eau très gelée et on regarde combien de temps ils arrivent à garder l'index dans l'eau froide. Donc évidemment, ça crée une sensation de douleur. S'ils écoutent de la musique plaisante, ils vont réussir à rester plus longtemps avec le doigt dans l'eau
que dans l'eau froide. Damien Mascret.
Oui, est-ce que quand vous dites musique plaisante, ça veut dire musique plaisante pour soi, peu importe le rythme, ou ça veut dire une musique particulière ?
Alors, ça peut être, c'est une musique qui va procurer du plaisir. Alors, il y a 36 000 raisons d'avoir du plaisir en écoute musicale. Évidemment, le plus souvent, c'est parce que ça nous évoque des événements de la vie qui sont heureux. Mais en général, c'est pas que ça, parce que les caractéristiques acoustiques, on va dire, ou musicologiques des musiques que nous écoutons suffisent pour pouvoir nous mettre dans un état donné. Ce qui fait que lorsque vous allez à un concert de musiciens que vous connaissez pas les morceaux, bien, l'effet de ces morceaux sur le public va être à peu près le même sur tout le monde, parce qu'il y a aussi des effets, on peut dire, assez systématiques des organisations musicales. Donc, vous pouvez, ce qui est important pour la sensation de douleur, c'est d'écouter des musiques qui sont plaisantes, très très plaisantes pour la personne qui est en état de douleur. C'est vrai que quand la douleur est aiguë, des musiques qui sont très dynamiques et qui sont plaisantes et très dynamiques vont avoir plus d'effet parfois que des musiques qui sont calmantes. Mais là, il peut y avoir des variabilités en fonction des personnes, en fonction des âges aussi, etc.
On va poursuivre cette discussion dans un instant avec vous, Emmanuel Bigand, et on va voir que la musique nous aide aussi à apprendre.
Europe 1, Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être, et nous parlons aujourd'hui des pouvoirs de la musique sur notre santé et notre cerveau. Nous sommes toujours avec le docteur Damien Mascret en studio et en ligne avec notre invité du jour, Emmanuel Bigand, qui est professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne et rattaché au CNRS. Emmanuel Bigand, on vient d'écouter ce disque en anglais, on n'a pas forcément tout compris, mais dans votre livre, vous expliquez que la musique favorise l'apprentissage des langues et même de la lecture. Par quel mécanisme est-ce que ça agit ?
Oui, alors, il y a plusieurs effets de la musique sur l'apprentissage. Il y a des effets à très court terme, des effets à moyen terme, puis des effets, on va dire, à plus long terme. Ce que l'on a constaté, c'est que les enfants qui sont dans une activité musicale, même si elle est relativement restreinte, c'est-à-dire une séance hebdomadaire, ont des facilités pour les acquisitions scolaires fondamentales qui sont liées au traitement du langage et y compris à l'apprentissage des langues étrangères. On comprend aujourd'hui pourquoi, en tout cas en grande partie, pour quelles raisons il y a des liens. Par exemple, on avait des liens mystérieux entre les capacités d'apprentissage de la lecture et la capacité musicale de jouer en rythme avec quelqu'un ou de taper un rythme avec quelqu'un. A priori, vous vous dites, mais ça n'a aucun rapport, le rythme c'est par les oreilles et la lecture c'est par les yeux. En fait, pour pouvoir apprendre à lire, il faut que vous puissiez segmenter le signal sonore de parole, identifier toutes les syllabes, tous les phonèmes qui sont présents, pour pouvoir ensuite voir leur code visuel, leur code orthographique. Pour cette segmentation auditive, la musique vous prépare et plus vous avez une oreille qui est capable d'être précise dans le traitement du temporel du son, et plus vous allez pouvoir faire cette analyse du signal de parole, et plus l'acquisition de la lecture sera facile à l'école.
Et donc on peut pousser un enfant qui a des problèmes de lecture à faire de la batterie, par exemple ? Ou l'inciter, en tout
oui,
cas.
Oui, alors bien sûr, on a des thérapies ou des approches de type thérapeutique, des retards d'acquisition du langage chez les enfants pour différentes causes, y compris pour des enfants qui sont dyslexiques. On leur propose des stratégies de rééducation par la musique, on leur fait faire de la musique, et une des stratégies consiste à rééduquer cette capacité, ce qu'on appelle de discrimination temporelle, c'est-à-dire d'être capable d'entendre l'ordre exact avec lequel les sons se succèdent, ce qui est un problème chez les enfants dyslexiques. On peut rééduquer ça par la musique, par exemple.
Damien Mascret.
Oui, est-ce qu'il y a une différence entre, dans ce cas-là précis d'ailleurs d'apprentissage, entre jouer de la musique ou écouter de la musique ?
Oui, il y a une différence, c'est-à-dire que plus vous êtes engagé dans le contrôle moteur du son, et donc plus vous stimulez les boucles perception-action, je perçois du son mais je peux agir aussi sur le son, et plus vous allez avoir des effets bénéfiques de la musique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des effets de l'écoute seule. On a pu notamment le mettre en évidence chez des patients, alors cette fois, qui, à la suite de lésions cérébrales, avaient perdu accès au langage. Ici, on leur fait écouter de la musique, ils vont mieux récupérer des fonctions linguistiques. Mais chez les enfants qui sont tellement actifs, on a tout intérêt à les faire entrer dans des jeux, des pratiques musicales, parce qu'à ce moment-là, on stimule les boucles perception-action, et si elles ont été stimulées par la musique, il va y avoir un transfert positif pour le langage, et que ce soit la langue maternelle ou une langue étrangère.
Emmanuel Bigan, on a vu apparaître récemment sur le marché français une application qui s'appelle StudyTrax et qui permet d'apprendre ses leçons en chansons. Voici un petit extrait.
Yeah, salut, c'est Soprano pour StudyTrax.
Philosophie, le bonheur.
Le bonheur est un état de satisfaction complète, un état durable de plénitude et d'équilibre entre l'esprit et le corps, où la souffrance, l'inquiétude et le stress sont absents.
Le bonheur est... C'est Tibbs sur StudyTrax.
Physique-chimie, mélange, transformation chimique, transformation physique.
Il existe deux types de mélange. Les mélanges homogènes semblant être constitués d'un seul composant.
Histoire, l'affaire Dreyfus.
C'est Joe Star. Le capitaine Dreyfus, alsacien d'origine juive, est accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Jugé et condamné sans preuve pour trahison, il est déporté en grillage.
Emmanuel Bigan, est-ce que c'est plus facile pour le cerveau d'apprendre comme ça une leçon en chanson ?
Alors la réponse n'est pas si simple. En plus, je connais bien les gens de StudyTrax parce qu'on travaille sur leur projet qui est très original et très intéressant, mais il ne faut pas rêver. Ce n'est pas parce qu'on écoute de la chanson et puis qu'on a du plaisir à écouter la chanson qu'on va apprendre des choses compliquées sur les mathématiques et sur l'histoire nécessairement. La situation est un peu plus complexe que cela. En fait, lorsque vous écoutez une leçon en musique, vous êtes dans une situation qu'on appelle de double tâche. Une partie de votre attention va vers la musique, une autre vers le contenu de la leçon à apprendre. Donc, la situation la plus terrible, c'est si un enfant apprend ses leçons en écoutant une musique qui n'a aucun rapport avec la leçon. Alors là, il est en situation de double tâche, le cerveau n'est pas bon, et là, on n'aura pas des effets positifs.
Donc, faire l'intérêt ses devoirs de en musique, c'est pas conseillé.
Même en musique, ce qui sera plus utile, c'est s'il écoute de la musique avant d'apprendre sa leçon. S'il se motive, s'il se donne de l'énergie, ensuite, il est plein, bourré d'énergie, il apprend sa leçon, ça sera plus efficace que s'il écoute un disque qui n'a strictement aucun rapport avec la leçon. Et ça peut paraître paradoxal à certains, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que vous conduisez une voiture, et souvent, c'est ennuyeux de conduire une voiture, vous mettez de la musique, et votre motivation, votre énergie intérieure augmente. Donc, vous avez l'impression que c'est tout au bénéfice de la conduite de la voiture. En fait, vous avez plus d'énergie, donc ça, c'est vrai, c'est ce que vous gagnez d'une main, mais de l'autre, vous en perdez une partie, parce que ça va sur l'écoute musicale et pas sur la circulation. Donc, est-ce que vous y avez gagné beaucoup au final ? C'est pas certain. Par contre, StudyTrax, ce qu'ils font d'intéressant, c'est qu'en utilisant le rap, le contenu du texte est intégré à l'information musicale. Donc, il n'y a qu'un seul canal attentionnel. L'enfant focalise sur un texte musical qui contient l'information. Donc là, on pense qu'il y a des effets positifs. Pour le moment, on n'a vu aucun effet négatif de ce type de pratique. Donc, je pense que dans cette situation-là, c'est plutôt positif. L'application StudyTrax ne propose pas uniquement aux enfants d'apprendre en écoutant. Ce qu'elle propose, c'est un nouveau support matériel de cours que les profs peuvent utiliser en cours pour faire ensuite travailler les étudiants. En gros, enfin les élèves, en gros, en cours, on écoute le rap sur le théorème de Thalès, par exemple, qu'on vient d'entendre, et ensuite on fait un travail normal, pédagogique traditionnelle, autour de cette chanson.
D'accord. Damien Mascret.
Oui, vous avez souligné le fait qu'effectivement, quand on écoute de la musique, et a fortiori si on en joue ou qu'on compose, on va stimuler finalement des réseaux neuronaux et toutes les zones du cerveau, donc c'est tout bénéfice. Est-ce que c'est vrai aussi à l'âge adulte, voire l'âge avancé, si on décide d'apprendre d'un instrument de musique, est-ce que c'est bon pour les autres apprentissages ?
Et ça, c'est une merveilleuse question. Actuellement, on analyse beaucoup les effets de la musique pour lutter contre le vieillissement cognitif, c'est-à-dire cette tendance à être de moins performant à partir d'une cinquantaine d'années. Je suis désolé pour tous les auditeurs qui commencent ont plus de 50 ans. Par les activités musicales, et si vous commencez à faire de la musique tard, même à partir de 50 ans, si vous êtes assidu, c'est-à-dire si vous faites 4-5 séances de pratique musicale par semaine, vous allez avoir retrouver des compétences cognitives de personnes plus jeunes. Et on a même pu montrer que pour certaines compétences, des gens qui ont eu la chance de faire 10 ans de musique dans leur vie ont des compétences cognitives, notamment d'analyse de la parole dans le bruit, qui sont identiques à celles de jeunes gens de 20 ans. Donc la musique, oui, c'est notre grosse hypothèse de travail, on a beaucoup d'éléments favorables pour la réponse, c'est un bon outil de lutte contre le vieillissement cognitif.
Damien ?
Oui, on a maintenant aussi des techniques d'imagerie cérébrale qui permettent de voir le cerveau fonctionner. Est-ce qu'on a observé chez les mélomanes ou chez d'ailleurs les grands musiciens ou les chefs d'orchestre des modifications du cerveau ?
Oui, on a beaucoup étudié les modifications du cerveau des musiciens. Le musicien est un magnifique objet de plasticité cérébrale. Autrement dit, s'il y a une plasticité cérébrale, elle doit s'observer chez les musiciens. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps, ils font un travail assidu, journalier, et ils le font tout au long de leur vie. Donc, on a pu montrer qu'il y a différentes zones qui sont changées. Il y a les zones, évidemment, qui sont directement impliquées dans l'activité, les zones motrices pour les interprètes, ou les zones du cortex auditif, évidemment, pour tous les musiciens. Mais il y a également toutes ces zones qui établissent des communications entre les régions du cerveau, comme le corps calleux, par exemple, ou les faisceaux arqués qui relient le cortex temporal au cortex frontal. Et ces zones de communication se surdéveloppent grâce à la musique. Alors évidemment, vous voyez, l'intérêt, c'est qu'une fois que ces autoroutes de communication ont été surdéveloppées par la musique, ils peuvent servir pour toutes les autres activités. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a aussi des effets bénéfiques de la musique sur le cerveau de ceux qui ont fait de la musique, parce qu'ils ont développé des outils neuronaux grâce à la musique qui vont être réutilisés pour d'autres activités.
Merci beaucoup Emmanuel Bigand de nous avoir éclairé. On rappelle que vous êtes notamment l'auteur d'un livre paru chez Belin qui s'intitule « Les bienfaits de la musique sur le cerveau » et votre prochain ouvrage « La symphonie neuronale » paraîtra en septembre.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec des conseils pour booster son mental pendant l'été et la chronique sexo de Damien Mascret. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 16h et je suis toujours en compagnie du docteur Damien Mascret. Et tous les jours à cette heure-ci, nous parlons de développement personnel et de psychologie parce que la santé, ça passe aussi par la tête. Tous les jours, nous sommes donc avec un spécialiste pour 3 conseils simples à appliquer tout de suite au quotidien. Bonjour professeur Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes psychiatre, vous dirigez le département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Bichat à Paris. Vous allez nous aider à booster notre mental. Si je vous demande 3 idées pour se réénergiser cet été, vous me dites quoi ?
1. Le mouvement.
Le mouvement.
On va bouger. On va avoir plus de temps, plus d'opportunités pour bouger. Donc on va bouger sans s'épuiser, sans rechercher la performance. Mais en bougeant, on diminue son adrénaline, on augmente sa sérotonine, on fait pousser ses neurones, on augmente sa mémoire. C'est une activité gagnante.
En faisant du sport.
En faisant du sport, du mouvement, le mouvement qui vous fait plaisir.
La marche, ça marche aussi.
La marche, ça marche aussi. 10 minutes de marche, on augmente de 10% son sentiment de bien-être et on diminue de 10% son niveau de stress.
D'accord. Premier conseil, on fait du sport. Deuxième conseil.
Deuxième conseil, on fait l'inverse de ce qu'on fait là. Vous voyez, là, on essaie d'aller un peu vite, de dire des choses. Eh bien, on va être en vacances, on va assumer un peu de lenteur. Vous imaginez si je vous faisais ça, là, tout de suite. Je vais prendre 2 fois plus de temps pour faire ce que je prends d'habitude. Donc, on va des fois céder, même avec un petit minuteur. Le petit déjeuner, on va le prendre en 2 fois plus de temps. Le repas aussi. D'accord. Tout ce qu'on fait d'habitude en temps limité, là, on va se mettre une contrainte de temps, mais au contraire, à l'inverse, on va se faire des expériences de lenteur. Puis ça peut être aussi une petite sieste. Tous ces moments de lenteur donnent une énergie considérable. Et ça se trouve, vous allez voir, vous allez essayer et vous allez avoir envie de faire des émissions qui vont durer 2 heures au lieu d'une heure, vous imaginez?
Oui, si on finit à 22h, je vais me faire taper sur les doigts.
Mais... Non, ça va être formidable, vous allez voir.
Troisième conseil,
l'anti-perfectionnisme.
Hein,
on veut tout bien réussir, on fait des bilans. Mais en vacances, on n'a pas besoin de bilan. On n'a pas besoin de vacances parfaites. Les bonnes vacances vont être des vacances imparfaites. On se souviendra d'autant mieux des ratés, des petites choses imprévues, de tout ce qu'on n'avait pas organisé. Mmh. Donc on reprend la main, on retrouve ses vrais objectifs et surtout... En fin de journée, on peut se souvenir des moments agréables, mais on ne se note pas ces jours de vacances. On ne note pas son entourage. On ne recherche pas cette perfection qui nous fait tellement de mal. Et puis, un dernier petit truc avant de partir. On s'autorise à bavarder. On s'autorise à dire des choses légères, à dire des choses sans importance, à dire des choses simplement émotionnelles. Ces toutes petites choses-là, vous voyez, qu'on peut vraiment mettre dans son emploi du temps, c'est ça les vacances.
D'accord, mais quand vous parliez d'imperfection, ça veut dire si le repas est un petit peu brûlé, voilà.
On peut être dans l'à peu près. En fait.
La maison n'est pas tout à fait rangée, c'est moins grave.
Doit être dans l'à peu près. Vous imaginez des repas de vacances qui soient totalement parfaits avec une entrée, un plat, un dessert, tout ça, parfaitement organisé. On oublie et on cherche l'inverse et on apprécie l'inverse. Vous savez, il y a même des psychologues qui disent on va essayer de mettre le vêtement un peu sale, un peu taché, un peu troué, celui qu'on ne mettrait pas hein, quand on vient à Europe 1, vous imaginez. Eh bien, on va se l'autoriser et on se fait une petite sensation nouvelle.
D'accord. Du sport, de la lenteur et halte au perfectionnisme. Voilà vos conseils, professeur Michel Lejoyeux. On rappelle que vous êtes psychiatre, que vous dirigez le département de psychiatrie de l'hôpital Bichat. Et on redonne le titre de votre dernier livre. Ça s'appelle « Révéler vos super pouvoirs » et c'est paru en livre de poche.
Au livre de poche, oui.
Europe 1. Sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé et bien-être. Et dans cette dernière partie de l'émission, nous parlons intimité et vie affective avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue et aujourd'hui, vous vouliez nous parler de sexe et de sentiments.
Bah oui, parce que sur ce plan-là, il y a un petit peu un double standard. Vous avez d'un côté...
Un double standard.
Eh oui, un double standard. Un pour les hommes, un pour les femmes. D'un côté, les hommes qui multiplient les conquêtes, c'est plutôt bien vu, hein, c'est valorisé, signe de virilité. Et puis de l'autre, pour les femmes, cette fois-ci, qui multiplieraient les conquêtes, c'est plutôt mal vu, comme si finalement, elles ne pouvaient pas avoir d'autonomie et ne pas décider elles-mêmes de rapports sexuels, éventuellement sans sentiment, comme s'il fallait forcément qu'une femme soit amoureuse pour s'autoriser à la sexualité. Et cette façon d'obliger socialement les femmes, finalement, à mélanger sexe et sentiments, attention, je ne dis pas que c'est interdit.
Mais c'est un peu cliché quand même.
Ça pourrait paraître effectivement un petit peu cliché, mais c'est dans l'esprit de beaucoup, c'est dans les représentations de beaucoup. Et ça a un retentissement sur la sexualité du couple. On s'est aperçu, enfin en tout cas, des chercheurs norvégiens ont eu l'idée d'interroger en profondeur 90 couples, âgés de 19 à 30 ans, des couples qui étaient formés en moyenne depuis 21 mois, ça allait de 2 mois à 9 ans. Et alors qu'habituellement, après quelques années, on sait très bien que les hommes sont plus souvent initiateurs d'un rapport sexuel que les femmes, on considère qu'ils sont 3 fois plus demandeurs que les femmes, et bien là, dans ces 90 couples, ils ont vu qu'il y avait des couples où c'était la femme qui était d'une certaine façon plus gourmande que son partenaire. Et le plus troublant, c'est que c'était souvent les femmes qui considéraient qu'il était tout à fait possible de séparer sexe et sentiment. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles n'aimaient pas leur partenaire ou qu'elles étaient infidèles. Simplement, elles distinguaient bien le sexe et les sentiments.
Mais est-ce que c'est un problème de mélanger sexe et sentiment? C'est embêtant?
Alors, en tout cas, pour les chercheurs norvégiens, si on arrive à distinguer sexe et sentiment, ça veut dire que dans sa relation, on arrive à séparer les aspects sexuels des aspects émotionnels d'une relation. Et ça, c'est important. Dans certains cas, ça évite en tout cas d'utiliser la sexualité comme une arme. Vous avez des couples dans lesquels la sexualité finalement est utilisée comme une récompense quand l'autre s'est bien comporté, et puis comme une punition. On fait en quelque sorte la grève du sexe quand on est en colère ou que l'autre s'est mal comporté. Alors en réalité, cette distinction, cette utilisation finalement fonctionnelle de la sexualité perturbe évidemment le cycle de la libido, parce que ça veut dire que le sexe n'est plus une activité ludique, une activité intime et agréable, mais que c'est devenu finalement une activité qui finalement joue avec la libido de l'autre et non pas avec sa propre libido, puisque quand on a envie, en principe, eh bien, si les deux ont envie, et même si on s'est disputé, après tout, on peut se réconcilier sur l'oreiller.
Merci beaucoup, docteur Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage tous les jours de 15h à 7h, dans 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. Demain, le dossier du jour sera consacré à nos muscles, à nos articulations. Nous verrons comment entretenir sa souplesse à tout âge. Et vous nous parlerez aussi, Damien, de don du sang, parce que c'est aussi important l'été. Merci beaucoup à vous, docteur Damien Mascret. On se retrouve demain à 15h.